Bonjour, je m'appelle Philippe Corbet, je suis le chef du service politique de BFM TV. Avant de vous parler de notre épisode du jour, je voudrais m'excuser, présenter nos excuses, parce que pour des raisons techniques qui sont indépendantes de notre volonté, les derniers épisodes de ce balado n'ont pas été disponibles, en tout cas ne le sont pas pour le moment, sur la plateforme Apple Podcast, mais si vous écoutez cet épisode, c'est que vous l'avez trouvé peut-être ailleurs, donc sur l'application ou le site BFM TV, sur Deezer, sur Spotify, enfin bref, vous pouvez retrouver tous les épisodes que vous avez manqués cette semaine, et je vous conseille notamment un épisode enregistré, un épisode qu'on a mis en ligne le mardi 22 mars avec Juliette Pellerin, qui est journaliste à BFM TV et qui racontait comment est-ce qu'elle a travaillé pendant des mois sur le terrain à travers la France pour trouver les Français qui ont pu interpeller et interroger des candidats dans notre émission La France dans les yeux. Je vous assure, c'est un épisode plus long que les autres, mais qui est vraiment intéressant parce que Juliette a eu la chance de pouvoir être au plus près des préoccupations des Français dans cette période assez particulière. Donc si vous avez raté cet épisode, vous pouvez le trouver sur Spotify, sur Deezer, sur l'application et le site BFM TV, en attendant que tous nos épisodes manquants soient à nouveau sur la plateforme Apple Podcast. On en vient à l'épisode du jour. Peut-être un épisode qui est consacré, le premier consacré à la campagne de 2027, puisqu'il est question de François Hollande, qui est allé soutenir cette semaine Anne Hidalgo, la candidate socialiste à Limoges. Perrine Vasque y était pour BFM TV et elle avait beaucoup de choses à nous raconter lorsqu'on a enregistré cet épisode. Nous sommes le vendredi 25 mars, à 30 jours exactement du choix des Français. Salut Perrine.
Salut Philippe.
Bon, on va parler d'Anne Hidalgo, la candidate socialiste à la présidentielle, mais aussi de François Hollande, qui est allé la soutenir cette semaine à Limoges, et tu y étais, et tu vas nous raconter ça. Et il se trouve, puisqu'on avait décidé de parler de François Hollande pour cet épisode, tout à l'heure, je suis tombé sur lui, dans la rue, par hasard. Il allait déjeuner, je lui dis bonjour, monsieur le président. Et sans être particulièrement ironique, mais je lui dis, ah bon, pareil, la campagne de 2027 a commencé. Et il a répondu, oui, il paraît. Et je faisais allusion, évidemment, à, et puis on a parlé d'autres choses après, mais je faisais allusion à ce déplacement de François Hollande à Limoges pour soutenir Anne Hidalgo. C'était comment d'abord ? C'était la première fois qu'il prenait clairement, officiellement, position pour Anne Hidalgo dans cette campagne, même s'il avait laissé entendre il y a plusieurs reprises, notamment il y a quelques semaines sur BFM TV, qu'en toute logique, il soutiendrait la candidate du Parti Socialiste à la présidentielle. C'était un événement malgré tout qu'il allait la soutenir.
Oui, alors après, quand, dans son discours, il a plutôt dit « je suis socialiste et je voterai toujours socialiste »
voilà.
Pour s'éviter de dire « voterai Anne Hidalgo ».
Il n'a pas dit « Anne Hidalgo est la femme qu'il faut aller ».
Non, il a loué son courage, mais ça a été très court. En fait, c'était assez dingue parce que déjà, on nous dit que c'est au parc des expositions de Limoges. Ouais. Donc on se dit « bon, bah, c'est une grande salle, ça va être immense ». Et puis en fait… On nous indique le chemin une fois qu'on rentre dans la salle des expos, enfin dans le parc des expositions, on est toujours en voiture. Et puis là, on voit qu'on roule, on roule, jusqu'à accéder tout au fond de ce parc à une petite salle. Et en fait, là, on comprend qu'on est en fait dans une petite salle à l'intérieur du parc des expositions. Mmh. Et on rentre et on est, pour un meeting quand même de fin de campagne, dernière ligne droite d'une candidate socialiste. Bon, bah, on se rend compte qu'on est dans une campagne particulière. On a 400 chaises. Et il y a énormément d'espace libre dans la salle. Déjà, première chose qui nous frappe.
Dans la région où François Hollande a été élu, puisqu'il a été maire, député, président de conseil général dans cette région-là.
Oui, et puis alors visiblement, comme ils avaient un peu de mal à remplir la salle, nous a-t-on dit, il y a beaucoup de militants qui sont venus de Corrèze,
oui,
justement, pour soutenir François Hollande. Et on nous annonce l'arrivée de François Hollande avec Anne Hidalgo, donc ils montent ensemble sur la scène, et puis François Hollande commence son discours. On nous avait prévenu.
Il parle avant elle, évidemment.
Et voilà, il parle avant elle. On nous avait prévenu qu'il parlerait beaucoup d'international, qu'il mettrait des petites pierres pour la suite.
Quand tu disais, on nous avait prévenu qui ?
Les équipes de François Hollande.
Les équipes de François Hollande.
Voilà, il devait faire un discours de 30 minutes. On pense que ça a été un peu plus long. Et puis surtout, ce qui nous a assez rapidement alertés, c'est qu'en fait, il était en train d'installer son retour. dans la scène, sur la scène politique. Et en fait, on s'est dit, on est à 2 semaines et demie du premier tour. Il vient en soutien à sa candidate, à la candidate du Parti socialiste, et il annonce, il choisit ce moment pour annoncer son retour. Et même, c'est-à-dire, comment est-ce qu'il le dit ? Eh bien, il n'arrêtait pas de dire qu'en gros, la partie commençait après le 10 avril. Il s'en cachait même pas, quoi. Il disait, à partir du 10 avril, il va falloir reconstruire la gauche, j'y prendrai ma part, je prendrai ma part. Alors après, j'ai taquiné à l'issue du meeting, parce que je prendrai ma part, c'est typiquement la phrase que nous a dit pendant des mois Anne Hidalgo avant d'annoncer officiellement sa candidature.
C'est une formule
critique, ouais. Voilà. Et à un moment même, enfin, si tu veux, moi, ce qui m'a marqué quand même, c'est qu'il enjambe, en fait. Il enjambe et le premier tour de la présidentielle et les présidentielles et la candidate qui, elle, l'écoute au premier rang. Il dit il va falloir reconstruire la gauche avant les législatives. Et là, on se dit, mais quand même, il vient à son meeting. Alors, il termine son discours là-dessus, très applaudi, etc. Anne Hidalgo monte sur scène. Et là, je me dis quand même, et j'en parle d'ailleurs aux équipes de François Hollande, je me dis, bah, je serais pas trop contente, quoi, du discours. Et en fait, elle arrive et puis elle se met au micro, elle dit, merci beaucoup François pour ce discours. Voilà. En fait, on voit qu'il y a une relation qui n'est plus égale à égale, en fait. Comme la candidate est très basse, eh bien, en fait, disons qu'il peut se permettre de faire ça. Et alors, ce qui a été aussi incroyable à la fin, c'est que il s'offre un mini bain de foule devant les quelques militants qui étaient au premier rang. Alors, il y avait beaucoup de journalistes pour venir arracher quelques mots à François Hollande. Et ce qui m'a frappé, ce que je me suis dit, c'est qu'en fait, nous-mêmes, nous enjambions complètement Anne Hidalgo. C'est-à-dire qu'on était à 2 semaines et demie du premier tour. C'est la candidate socialiste. Elle était à côté de lui, mais les caméras étaient braquées sur lui, les micros étaient braqués sur lui. À un moment, moi, je me vois même, comme il y avait beaucoup de monde, fallait se faire un peu de place. Je me vois même vraiment physiquement l'enjamber quasiment pour tendre le micro à François Hollande. Et on s'est dit, mais c'est dur, quoi.
Ouais.
C'est très dur. Et du coup, à ce moment-là, je lui dis, vous êtes content de retrouver les militants socialistes? Il me dit, oui, ça fait très longtemps. Et alors, il nous explique qu'il n'a pas fait de meeting depuis au moins sa campagne de 2012. Il réfléchissait tout haut, j'en ai pas fait en 2017, etc., etc., quand tu étais président. Et je lui dis, donc ça va continuer, vous allez les retrouver bientôt. Oh bah oui, bientôt. Et elle était à côté, en fait. C'était assez incroyable.
C'est dur. Hein.
C'était dur. Donc du coup, on s'est dit, on s'est tous regardés, il y avait beaucoup de journalistes, beaucoup de journalistes pour ce meeting
plus
attendu
que pour
quand même.
Une réunion publique habituelle d'Anne Hidalgo.
Et, évidemment. Et on s'est tous regardés, on s'est dit, bon, bah, en fait, on a assisté au premier meeting de François Hollande pour l'après, quoi.
Oui, peut-être le premier meeting de la campagne électorale de 2027.
Alors, avant, il faut. Alors, justement, parce qu'avant, toute la question va être sur les législatives.
Oui.
Donc, suite à ce petit bain de foule, on nous annonce qu'il va faire un off avec les journalistes, donc ça veut dire qu'il va,
parler sans micro, sans caméra.
Voilà, exactement. On est autorisé à aller le voir en coulisses et il nous parle un peu sur la législative. C'est un peu compliqué à savoir est-ce qu'il va se présenter en Corrèze ou pas. Lui, il laisse complètement le doute planer. Il nous dit que la décision n'est pas prise pour l'instant, mais c'était très intéressant parce qu'en fait, il a développé un peu ce qu'il voulait faire. En fait, ce qu'il veut faire, c'est comme tous les candidats aujourd'hui, comme tous les personnalités politiques, c'est aller au-delà des partis. Donc, il veut un espèce de labellisation, c'est le mot qu'il a employé, pour refonder quelque chose sur lequel il veut prendre sa part, en tant que candidat ou pas, on n'en sait rien. Et puis, il y avait aussi avec lui Patrick Mennucci. Voilà, qui nous disait, mais ça pourrait être tout à fait une union pour les législatives, avec autour de la table Carole Delga. Alors, c'est vrai qu'on sait que Carole Delga,
présidente de la région Occitanie, voilà, socialiste, qui a été la présidente la mieux réélue l'année dernière et dont on dit qu'elle pourrait être une des figures au sein du Parti socialiste d'une nouvelle génération qui serait mise en avant après cet échec annoncé et probable de Anne Hidalgo à la présidentielle.
Et du coup, c'est ça. C'est-à-dire que même avant l'intervention de François Hollande, on savait de toute façon que la page Anne Hidalgo serait très très vite tournée au sein du PS, même du côté de l'équipe d'Olivier Faure. Hein. C'est-à-dire qu'on Carole Delga, c'est un nom qu'on nous donne depuis plusieurs semaines, qui pourrait mener la campagne des législatives, sans être candidate elle-même, mais en tout cas la faire sur son image. Elle a une image de femme assez dynamique. Voilà, exactement. Et donc, Mennucci me dit, ça pourrait être avec Carole Delga, avec le PRG, revoilà le PRG qui avait essayé...
Le Parti radical de gauche qui a soutenu brièvement...
Christiane Taubira.
Christiane Taubira avant d'enterrer ses espoirs de candidature.
Et donc avec François Hollande. Donc ils partent un peu dans cet esprit-là. Et à la fin de ce off, juste pour finir sur cette petite séquence, il nous dit bon bah c'est bon. Et je dis bah moi il y a quand même quelque chose, Monsieur le Président, qui m'a un peu, je voudrais vous questionner là-dessus. C'est vous l'avez complètement enjambé en fait, Anne Hidalgo. Là vous avez parlé de l'après, après le 10 avril, après la présidentielle. C'est un peu dur quand même ce que vous lui faites. Il me dit, bah, il me répond, c'est vrai que je parlais, il en souriait d'ailleurs. Il me dit, je parlais beaucoup du 10 avril. Alors je me dis, bon, bah, à un moment, il faut quand même que je parle du 24 aussi, comme si, tu vois, c'était le deuxième tour inatteignable. Et en fait, dans sa réponse, j'ai bien senti que c'était tout à fait assumé, qu'il le faisait bien sûr consciemment, et qu'il n'y avait pas de. Et encore une fois, image un peu difficile, c'est qu'on était, écoute, au moins une quinzaine de journalistes autour de François Hollande pour ce off. On était dans la même salle qu'Anne Hidalgo. Et Anne Hidalgo était seule à discuter avec des personnes autour d'elle dans la salle, mais les journalistes n'étaient pas autour d'elle. C'était quand même une image assez marquante à deux semaines du premier tour. Sauf que l'initiative de François Hollande, autant te dire qu'après, on a tout de suite pris nos téléphones pour appeler deux, trois proches d'Olivier Faure. Olivier Faure, bien sûr, qui n'était pas présent à Limoges.
Le premier secrétaire du Parti Socialiste.
Et pour leur expliquer un peu ce qu'on venait d'entendre et l'initiative prochaine de François Hollande. Ça fait un petit peu grincer des dents, c'est le moins qu'on puisse dire. Un proche, Olivier Faure, me dit, mais qu'est-ce qu'ils croient? De toute façon, ils n'ont rien prévu, ils n'ont rien créé. Et puis, les législatives, c'est un truc qui se travaille en amont. Nous, nos circonscriptions, elles sont déjà établies. Ils ne vont pas arriver avec une autre liste. Donc, on s'est dit, ça ne va pas être simple, cette histoire.
Et pour tout te dire, j'ai cru entendre, enfin, tout n'est pas encore fixé, que Olivier Faure a l'intention de faire une déclaration solennel, je ne sais pas si c'est le mot qu'il cherche à coller à son projet, mais une déclaration marquante ce soir-là, non pas le soir du premier tour, au siège du parti, non pas dans la soirée de campagne d'Anne Hidalgo, mais une déclaration pour ne pas perdre de temps pour l'après, parce que, comme tu le dis, à gauche, beaucoup de choses vont commencer, à gauche, s'il n'y a pas de candidat de gauche au second tour, beaucoup de choses vont commencer dès le 10 avril au soir, et une recomposition pour législative et pour les 5 ans qui viennent, donc Olivier Faure n'a pas l'intention de laisser le terrain vide trop longtemps.
C'est ça, en fait, on a beaucoup dit la garde des chefs à droite, mais à gauche, ça va être le cas. Mais par ailleurs, j'ai posé une question à François Hollande. Je lui dis, si le second tour se fait avec Jean-Luc Mélenchon face à Emmanuel Macron.
Ce qui est possible dans les sondages, on a fait un épisode là-dessus l'autre jour, après son rassemblement avec beaucoup de monde à Place de la République.
Exactement. Et je lui dis, là, ça va quand même un tout petit peu changer les choses en termes de rééquilibrage de la gauche après l'élection présidentielle. Il n'a pas aimé ma question.
C'est pas exactement son scénario.
J'ai pas l'impression.
Le scénario qu'il a en tête, de façon, c'est pas le scénario favori pour lui, non.
Et il m'a dit, bah oui, effectivement, de toute façon, il m'a quand même laissé entendre que oui, la recomposition serait pas tout à fait la même si Jean-Luc Mélenchon était au second tour, mais en tout cas, on voyait bien que c'était pas du tout l'objectif, enfin l'hypothèse qu'il avait envie de retenir.
Parce que ce qui va se passer si la tendance dessinée par les sondages se confirme, c'est-à-dire une qualification au second tour d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen, avec Jean-Luc Mélenchon troisième, solide, mais pas au point de dépasser Marine Le Pen, et plus loin, Éric Zemmour et Valérie Pécresse, avec Yannick Jadot autour de 6-7, 5-6-7, ou bah, peut-être un peu moins, et Anne Hidalgo en dessous des 5, c'est qu'il va y avoir une grande recomposition qui va s'engager à gauche, aussi parce que Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il ne serait pas candidat à une prochaine présidentielle s'il n'est pas élu cette fois-ci. Et ça va aller assez vite, Est-ce que les écolos ont démontré le fait qu'ils étaient le pôle d'attraction et de d'équilibre à gauche? Non. Enfin,
absolument.
Sauf surprise. Encore une fois, je dessine un scénario qui est celui des sondages. Peut-être qu'ils vont être démentis par le vote des Français. Mais si c'est ce scénario qui se réalise le 10 avril, ça n'est pas Yannick Jadot ou même le parti Europe Écologie et Verts qui peut être le pôle de recomposition à gauche. Est-ce que ça peut être les Insoumis? Mais est-ce que les Insoumis
sans Jean-Luc Mélenchon
peuvent être un pôle d'équilibre? Ça va être difficile. Ça ne peut pas être le PS, si sa candidate est à 3% ou 2%. Donc qui ce sera?
Mais ce qui est
et donc, juste pour finir ça, qui ce sera? Qui ce sera? Et comme la nature ayant horreur du vide, François Hollande, sachant très bien qu'il faudrait bien qu'il y ait une dynamique, un ou des personnalités qui créeront quelque chose autour d'eux, il peut être l'un d'entre eux.
Et d'ailleurs, c'était intéressant de voir que même François Hollande lui-même parlait de d'un autre parti, en fait, de recréer quelque chose, de se passer du Parti socialiste ou de le surmonter, en tout cas, de l'enjamber, d'aller plus largement que ça. Mais en tout cas, il parlait vraiment de ne plus forcément être le Parti socialiste demain.
N'oublie pas que dans la mythologie de la gauche, et notamment de la gauche socialiste, Épinay, le congrès d'Épinay, qui est le congrès fondateur du Parti socialiste et qui va être la première marche importante pour François Mitterrand avant d'arriver au pouvoir, non pas en 1974 comme il l'a souhaité, mais en 1980, le congrès d'Épinay. Et c'est aussi, d'une certaine manière, un congrès de dépassement de la vieille SFIO, oui. Totalement sclérosée, démonétisée, écrasée, humiliée, vide. Et François Mitterrand, quand il prend la tête du PS à l'issue du congrès d'Épinay, il n'était pas membre de la SFIO juste avant le congrès d'Épinay. Donc il sait très bien, ils connaîtront très bien son histoire de la vie politique, François Hollande, et il sait très bien qu'il ne s'agit pas de faire disparaître le PS, mais tout ça peut être englobé dans une structure plus large, qui n'aurait d'ailleurs pas une construction partisane autour d'une seule personnalité, mais il va y avoir tout un jeu de rapports de force qui va commencer, qui va s'accélérer très vite, oui, après le 10 avril, avant même le second tour de la présidentielle. Oui. D'ailleurs, il y aura une question très simple. Qui à gauche appelle ou pas à voter, si, encore une fois, dans l'hypothèse où au second tour il y a Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, qui à gauche appelle à voter pour Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, qui ne donne pas de consigne de vote? Ça va être un vrai curseur déjà de l'entre-deux tours.
Et quand tu parles du congrès d'Épinay, justement, c'est quelque chose qui revient tout le temps. C'est-à-dire qu'ils veulent refaire leur congrès d'Épinay aujourd'hui, sauf que ils vont être nombreux sur la ligne de départ parce qu'il y a François Hollande, ce qu'on a cité, Olivier Faure qui ne va pas lâcher la barre, etc. Mais il y a aussi, attention, il y a d'autres petits sous-groupes au sein du Parti socialiste, ou en tout cas au sein des anciens éléphants, comme on disait, c'est-à-dire que Jean-Christophe Cambadélis, lui aussi, il est en train de réunir des soutiens, des élus pour essayer de reconstruire quelque chose. Donc, même si c'est pas... je vois ton sourire, mais c'est pas forcément des gens qui pèsent beaucoup,
nombreux. Je me dis que c'est un retour de la solférinologie qui était le nom qu'on donnait à la science, qui consistait à comprendre les jeux de rapports de force à l'intérieur du PS à l'époque où il était rue de Solférino, la solférinologie.
En tout cas, quand tu dis que Olivier Faure a prévu de faire une allocution solennelle ce soir-là...
Solennelle, c'est pas le mot qu'il a donné, mais
enfin, en tout cas, de parler, voilà. Je suis curieuse de savoir ce qu'il va dire, parce que certains de ses proches me disent que eux, ils souhaiteraient qu'au soir du premier tour.
On va devoir juste sortir de la salle parce que quelqu'un attend la salle de réunion dans laquelle nous étions installés. Donc on va continuer à enregistrer et on va s'installer sur une banquette. Désolé pour ça. Hein. On va s'installer sur une chaise à côté et puis on va finir ça entre nous.
Et du coup, il m'expliquait qu'en fait. Non, l'ordinateur.
Non, c'est pas à nous l'ordinateur.
Et donc, il m'expliquait que...
On s'installe là, sur le canapé ?
Ouais, le soir du premier tour...
Ah non, il y a quelqu'un au téléphone. Attends, on va se mettre ici ?
Le soir du premier tour, un proche d'Olivier Faure me disait le seul message qui serait entendable de pour les Français, ce serait des excuses. Excusez-nous, on vous a plus entendu, on vous a plus compris. Donc du coup,
Ça peut être ça, le message du 10 avril pour Olivier Faure.
Mais comme cet élu socialiste est très proche d'Olivier Faure, mais je sais qu'il avait du mal à le convaincre. Voilà ce qu'il m'a dit. Donc, je suis pas sûre que ce soit ça. Mais en tout cas, je sais qu'autour de lui, il y a des gens qui lui proposent ce genre de type de parole. Donc, je serai tout à fait attentive à savoir ce qu'il va dire.
Oui, puis on va voir ce soir-là ceux qui avaient, au sein du PS, mis en garde contre une candidature d'Annie Hidalgo. Je pense notamment à Stéphane Le Foll, qui a été longtemps un très proche de François Hollande, qui va se faire entendre certainement dès ce soir-là pour dire eh bien, ce que je vous avais dit est en train de se passer. Anne Hidalgo, candidate du Parti Socialiste à la présidentielle, c'était une très mauvaise idée, et les Français l'ont exprimé de façon claire et nette ce soir. Il est temps de refonder quelque chose, machin, machin. On voit très bien ce que vont dire tous ceux qui, au sein du PS, pensaient qu'Anne Hidalgo était une très mauvaise candidate pour cette présidentielle.
Et puis,
sans remettre en cause ses qualités ou...
Non, bien sûr,
Mais c'était une mauvaise idée de la présenter, de pousser sa candidature.
Ce qui était par ailleurs également peut-être l'idée d'Olivier Faure, en tout cas, récemment, ce même élu très proche d'Olivier Faure me disait qu'il y a quand même eu à un moment, dans la campagne, un moment fatidique où Olivier Faure a réellement voulu débrancher Anne Hidalgo.
Alors, ça me fait penser. À quel moment, puisqu'on parlait de François Hollande, il y avait eu un papier très intéressant dans Le Monde il y a quelques semaines. Est-ce que François Hollande a vraiment imaginé Et on l'avait évoqué cette hypothèse dans des épisodes du service politique à la fin de l'année 2021. Est-ce que François Hollande a vraiment imaginé à un moment donné se lancer dans cette campagne présidentielle et être candidat à la place d'Anne Hidalgo?
Écoute, très sincèrement, je vais te dire, je pense que oui. Mais comme mes pensées n'ont aucune valeur, et ce que je pense n'a pas d'importance, je vais te dire ce que m'ont dit ses proches, suite justement à cet article du Monde pour lequel ils étaient assez énervés, d'ailleurs. Ils m'ont dit que non. Pas réellement.
D'accord.
Et que justement, cet article, ils le font un peu passer pour...
un opportuniste.
Oui, ou pour le type qui abandonne finalement au dernier moment. Eh bien, en fait, pour eux, c'était un petit peu détourner la réalité, parce que oui, il y a eu des équipes autour de lui qui se sont occupées d'envisager un scénario
de candidature
et de débrancher Anne Hidalgo. Mais le président, me dit-on, n'a jamais réellement participé à ces réunions, a plutôt laissé faire, mais n'a jamais dit officiellement oui. Je vais y aller. Et lorsque, du coup, finalement, il n'y va pas, ça a été pris pour un abandon par certains, mais ses proches me disent que ce n'était pas réellement un abandon parce que
jamais
il nous avait dit oui.
Bon.
En tout cas, dernier petit clin d'œil, tiens. Comme on est à 2 semaines du premier tour, on a su hier, on le savait, j'en avais entendu parler, mais ils nous ont concrétisé l'info, que la soirée électorale de Jean-Luc Mélenchon se ferait au Cirque d'Hiver. Et comme le chat se mord toujours la queue, eh bien le Cirque d'Hiver, ce sera le dernier meeting d'Anne Hidalgo. Avant le premier tour.
Bon, merci.
Merci. À bientôt.
Merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve demain.